Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Spiritualité, l'affaire de tous. Cette question, nous nous la posons tous les mois avec Swamini Amrita Jyoti Prana. Et c'est avec joie que je la retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet de l'éducation. En s'appuyant sur l'apport de grandes sagesses, notamment le Vedanta hindou, et de penseurs plus contemporains, Swamini nous aide à y voir plus clair sur notre rôle de parents. Jiddu Krishnamurti disait « L'éducation, dans le vrai sens de ce mot, consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. » Comment les parents peuvent accompagner les enfants, faire en sorte qu'ils se sentent aimés, acceptés pleinement? Comment leur assurer une stabilité intérieure et leur permettre de grandir avec confiance? Et comment s'y prendre avec les ados? À partir d'exemples clairs et en différenciant les étapes de la vie des enfants, Swamini répond à ces questions essentielles.
Spiritualité, l'affaire de tous, Alexia Simard sur Radio Grand Ciel.
Bonjour Swamini, Amrita Jyoti Prana.
Bonjour Alexia et tout le monde.
Je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'entretiens autour de la spiritualité dans l'émission Spiritualité, l'affaire de tous. Nous nous trouvons à Pongouin, pas très loin du centre d'Ama, dont vous êtes la représentante. Je suis très honorée de m'entretenir avec vous parce que les sujets que nous abordons me donnent matière à approfondir et aussi à pratiquer. Voilà, donc merci infiniment de votre temps et de votre disponibilité.
Avec plaisir.
Nous avons démarré cette série d'entretiens en essayant de clarifier ce qui est de l'ordre du spirituel et ce qui nous en éloigne. Notre engagement dans le monde, notamment, est une manière de développer notre pratique en faisant preuve de discernement quant à nos pensées, de compassion aussi envers les autres et en prenant soin de la Terre. C'était la dernière émission autour de l'écologie. Lorsque nous avons développer le sujet de l'écologie, vous avez évoqué l'importance de l'éducation et il m'a semblé important d'approfondir ce thème avec vous, si vous êtes d'accord.
Oui, oui, important.
Important, il y a beaucoup à dire. Et j'avais envie de commencer en guise d'introduction avec un texte de Khalil Gibran, qui est un auteur libanais. Et dans son livre Le Prophète, il y a un extrait au sujet des enfants. Je vais le lire peut-être, comme ça nous l'avons en mémoire. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Khalil Gibran, le prophète. Est-ce que ce texte vous paraît juste?
Il est juste, il est très beau, il est très poétique et très inspiré à mon avis.
Il parle de stabilité de l'arc.
Oui, alors là, il s'adresse aux parents quand il parle de stabilité de l'arc. Je crois que tout le monde est d'accord, tout le monde, c'est-à-dire, je ne sais pas, les psychologues, les neurosciences, la spiritualité... Pour montrer ou pour dire simplement l'importance de la mère et l'importance du père dans la vie de l'enfant, dans l'éducation de l'enfant. Et comme il est dit dans ce texte, moi j'avais une traduction que je trouvais aussi jolie, « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont l'appel de la vie à elle-même », quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire que les parents ne possèdent pas les enfants, c'est tellement important, et aussi ils sont avec vous, mais ils ne vous appartiennent pas. Ce qui me paraît important, vous pouvez tenter d'être comme eux, mais n'essayez pas de les rendre comme vous. Mmh. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui ont des idées préconçues, qui ont des projets, avant même que l'enfant naisse, oui. qui ont des projets pour leur enfant, qui souvent sont très liés à leur propre histoire personnelle, donc ils projettent leur histoire personnelle sur l'enfant, ce qui est un peu, on pourrait dire, inévitable. En même temps, tout dépend si on en est conscient ou pas. Toujours cette histoire d'être conscient, tellement essentielle dans la vie. Et par rapport à l'éducation des enfants, que l'enfant a son propre projet, ou on pourrait dire l'archer, d'après ce texte, l'archer a son propre projet pour l'enfant, et que les parents sont au service de ce projet, et non pas, l'enfant n'est pas au service du projet des parents.
Alors comment peuvent faire les parents pour sentir ou aller dans le sens du projet de l'archer? Ça paraît
oui.
difficile.
Le projet de l'archer, de toute façon, va être, en quelque sorte, on pourrait presque dire le même pour tous, c'est-à-dire développer le plein potentiel d'un être humain, sans a priori, c'est-à-dire que le potentiel peut être très différent d'un être humain à l'autre, d'un enfant à l'autre, mais ce qui permet aussi de développer le potentiel de l'adulte. L'adulte n'est pas un être, l'adulte parent qui a peut-être 20, 25, 30 ans, n'est pas encore vraiment un être abouti, il est aussi en cheminement. Donc il est aussi dans le développement de son propre potentiel. Et son propre potentiel va pouvoir se développer par l'écoute qu'il va avoir de son enfant, de ses enfants, l'écoute de ce qu'il y a en lui, et je pourrais presque dire même, bon évidemment moi j'accorde beaucoup de valeur à la méditation, au fait d'être à l'écoute, d'être présent, à la conscience, d'être conscient de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe autour de nous, dans notre profondeur, plutôt que d'être dans des réactions de surface qui nous font juger, prendre des décisions qui ne sont que partielles, qui ne tiennent compte, disons, que de certains éléments et donc qui risquent d'être des erreurs. Voilà, donc il y a tout ce travail qui est là demandé à l'adulte. Et sa stabilité va venir de sa capacité, dans une situation, à être à l'écoute de l'enfant, de lui-même et des autres éléments en jeu, des circonstances extérieures.
Oui, Arnaud Desjardins parlait de dharma, de paix, qui était un mot sanskrit. Hein,
oui,
du dharma, de père, le dharma de la mère. Il disait, non pas c'est mon enfant, mais je suis son père ou sa mère, avec le je suis à la place de j'ai un enfant. Est-ce que vous pouvez préciser ce mot dharma?
Oui, déjà dans la citation d'Arnaud Desjardins, vous voyez que ça rejoint tout à fait celle du prophète, c'est-à-dire que j'ai un enfant, c'est une façon de se situer, et j'ai un enfant et je suis un père ou je suis une mère, c'est pas tout à fait, on pourrait dire, la même vibration qui se dégage, ni la même responsabilité, ni le même lien entre l'enfant et le parent. Donc la question, c'était la stabilité.
C'était le dharma. Qu'est-ce qu'on entend par dharma?
Alors, bon, dharma, c'est un mot essentiel aussi bien dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans toutes ces religions ou spiritualités, on va dire, liées à l'Inde, parce que elles sont issues de l'Inde. pour rappel, le Bouddha était un hindou. Donc le dharma, même si ça a des sens un peu différents après, bien sûr, comme toujours, c'est quelque chose d'essentiel. On pourrait dire une définition générale, ce serait de parler d'harmonie qui permet l'équilibre de l'univers et qu'il n'y ait pas rupture, qui permet que les choses soient en équilibre et soient en harmonie. Donc, de façon plus restreinte, si on peut dire, parent-enfant, c'est donc une certaines valeurs, certaines attitudes, justement, qui vont permettre que quelque chose d'harmonieux se développe et soit maintenu, harmonie et équilibre. Voilà, où chacun a sa place, chacun a son rôle. Rôle peut être une traduction du mot dharma. Oui. Le dharma d'un père, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le rôle d'un père, le dharma d'une mère. On pourrait dire le dharma d'une mère, surtout dans les 9 mois de gestation, et puis la naissance, et puis on dit au moins la première année, c'est le dharma d'une mère, c'est d'aimer inconditionnellement son enfant. Et cet amour inconditionnel de la mère pour son enfant, à venir ou venu, est essentiel, déterminant pour la suite de la vie de l'enfant. Mmh. Et j'ai envie d'en profiter là maintenant, puisque c'est ça qui vient, pour dire que une société mature, je jette un pavé dans la mare peut-être, une société mature, une société responsable, consciente, c'est une société qui prend en compte ce qui est un fait. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idée, c'est un fait que la vie de l'enfant est déterminée en grande partie. Il y a toujours... c'est pas à 100%, hein, par les conditions de la mère, donc, pendant la gestation, pendant la première année, sa disponibilité, sa propre solidité, stabilité. Et le rôle du père dans cette période-là peut être surtout de s'assurer de donner cette stabilité à la mère.
Il faut qu'elle puisse aimer inconditionnellement.
Voilà, il ne faut pas qu'elle ait d'autres soucis. Il faut qu'elle soit soutenue et valorisée dans ce rôle.
C'est ambitieux, je trouve.
C'est un peu ambitieux. Alors, bien sûr, on ne s'attend pas à ce que ce soit... comment dire, c'est un idéal, c'est un but. Tout est un peu réparable ou rattrapable. Et même si ce n'est pas de l'inconditionnel ou du 100%, si c'est déjà du 60-70%, que l'enfant puisse se sentir... voilà, vous voyez tous les problèmes qu'il peut y avoir par la suite, de complexes de rejet, d'abandon, de trahison, de souffrance. On cherche tous, regardez les adultes, la dépendance, oui. Au fait, finalement, à la racine, c'est quoi? J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être connu, j'ai besoin d'être accepté. C'est la force on pourrait dire le symbole de l'étrendama aussi, hein. L'amour inconditionnel.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna,
que l'enfant se sente aimé. Est-ce que on pourrait s'appuyer sur cette citation de Swami Prajnanpad qui dit « Permettez aux enfants d'être ce qu'ils veulent, ne fermez jamais la porte au dialogue, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, qu'ils apprennent tout, laissez-leur la liberté, la possibilité de parler ouvertement. Et vous, ayez l'ouverture d'esprit d'écouter, d'expliquer de manière non passionnelle. Qu'ils soient libres, c'est tout. Jusqu'à quel point donc cette liberté, cette oui. écoute, mm-hmm. cette ouverture pour l'enfant tel qu'il est.
On parle de l'enfant, hein, on ne parle oui. pas de l'adolescent.
Non.
On parle de l'enfant. Et dans la tradition de l'Inde, et Amma le dit souvent, on considère que jusqu'à, on va dire, 5-6 ans, l'enfant, la première chose, c'est d'aimer l'enfant. Et même s'il fait des bêtises, d'accord, d'essayer d'éviter, bien sûr qu'il mette sa vie en danger ou la vie des autres en danger, ou il y a certaines choses minimales, mais vraiment de les réduire au minimal. Mmh. Et voilà, que l'enfant, c'est ce qui donne les bases, c'est ce qui donne les bases solides, affectives aussi, la solidité affective à l'enfant, c'est de se sentir aimé pendant ses premières années. Après, à partir de voilà, 5, 6, 7 ans, bon, nous on dit l'âge de raison, ça a un sens aussi, on peut commencer à discipliner, on pourrait dire, l'enfant. Ou, alors, pas discipliner dans le sens on va commencer à le battre,
oui.
de toute façon, c'est interdit, mais on reconnaît aussi, hein, neurosciences, psychologie, etc., que jusqu'à 4-5 ans, ce n'est pas la peine d'essayer de raisonner un enfant. Il n'a pas encore les capacités, son cerveau n'est pas encore développé au point de pouvoir suivre un raisonnement rationnel, une explication. On peut lui parler, on peut le faire, mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant capte les explications qu'on lui donne pour lui montrer que ce qu'il fait n'est pas bien, par exemple. Alors que quand il a 6-7 ans, ça y est, ça se forme, et là, il peut suivre un raisonnement, il peut discuter, il peut exprimer lui-même, et donc on peut à ce moment-là lui montrer des faits. Par exemple, je vais donner peut-être un exemple, s'il se met en colère parce que il s'est cogné contre la table. Il pleure, il se met en colère, il tape sur la table. Je vais dire, s'il a 3 ans, vous le consolez. Vous le consolez. S'il a 6-7 ans, vous le consolez, bien sûr, et vous lui expliquez que la table n'y est pour rien. Que la table n'a pas agi contre lui. Que la table est une table. Vous expliquez des faits. Hein, et que, voilà, qu'il a glissé. Et que la vie, parfois, il y a des enchaînements qui font que la vie ne nous dit pas toujours oui, que la vie n'est pas toujours favorable à ce qu'on voudrait. Oui, et donc vous commencez à le préparer à avoir une ouverture, comme il est dit dans la Bhagavad Gita, pour accepter d'un même cœur, on va dire, le oui et le non de la vie. Hein, l'agréable, le désirable, les paires d'opposés.
C'est un des exemples de... d'Arnaud Desjardins, cette histoire de table.
Ah bon?
Oui.
Je suis imprégné.
Ah, mais complètement. Il explique que c'est un non-sens que de dire à l'enfant que la table est méchante, par exemple.
Ah oui,
il
voilà.
a besoin ça, de revenir à la réalité.
Ah, c'est induire dans l'enfant des notions fausses, quoi.
Complètement. La fermeté, dit-il, est nécessaire pour apprendre à l'enfant à s'insérer dans ce dharma. Il n'y a pas que moi. Voilà. Donc ça vient résumer ce que vous venez de dire, le retour à la réalité.
Je pense que c'est... On ne peut pas faire ça trop tôt.
Oui.
Voilà. Mais on doit le faire. 5, 6 ans, 7 ans. Ah oui. Après, dans la tradition, on dit aussi que jusqu'à l'adolescence, il y a cette éducation. Et qu'à l'adolescence, il y a un tel bouleversement intérieur, hormonal, dans l'enfant, dans l'adolescent, qu'à nouveau, il faut être très attentif et être plus à l'écoute que de vouloir lui inculquer ce qu'on a essayé d'inculquer avant. Vous voyez, il y a différentes phases.
Oui.
Et la phase de l'adolescence, il faut vraiment essayer de comprendre, ou du moins d'écouter, parce que comprendre, c'est toujours un peu difficile. On croit qu'on comprend, mais en fait, voilà. Donc, de vraiment écouter et de ne pas le contrarier trop fort dans ce qui pourrait être quelque chose d'important pour lui. Mmh. Vous voyez, il met de la musique à fond, il danse sur des trucs et commence à lui dire, tu sais, c'est pas bon pour ton machin.
Comprendre le monde de l'enfant.
Voilà, il est dans un monde qui va pas durer. Tout change. Ça va peut-être durer, mais ça va avoir une autre signification ou se manifester différemment. Et donc là, il y a beaucoup de patience, je dirais, beaucoup de patience. Et pas d'inquiétude tout en étant vigilant, alors tout en étant très vigilant, surtout à notre époque, sur les fréquentations. Il y a vraiment, beaucoup plus qu'avant, le risque de voir un adolescent être entraîné, parce que c'est là où les parents doivent être très présents. Parce que si les parents ne sont pas assez présents, l'enfant qui a besoin d'être écouté, de se sentir en sécurité, il va aller plus vers ses copains, copines, et donc il y a plus de risques d'être entraîné, parce qu'il a besoin du groupe, il a besoin de, pas forcément d'un groupe important, mais il a besoin d'écoute, il a besoin de se sentir toujours pareil, de se sentir aimé et...
Appartenir peut-être à un groupe.
Il faut qu'il se sente appartenir à sa famille. Vous voyez que c'est important et que là aussi, une société doit pouvoir donner cette possibilité aux parents pour qu'ils ne se tournent pas trop vers qu'il ait des copains, qu'il ait des copines qui s'amusent, mais qui ne se laissent pas entraîner, on va dire, vers le bas, ou vers des choses dangereuses, hein, la drogue, l'alcool, etc.
Il s'agit de transmission de valeurs, finalement, de la part des parents, pour que ça tienne, en quelque sorte.
Alors là, justement, dans l'adolescence, bien sûr, c'est les valeurs. On peut lui montrer le risque et l'intérêt. Le risque, par exemple, de la drogue et l'intérêt, au contraire, d'être indépendant de la drogue. On pourrait dire du sexe aussi, pas indépendant du sexe de façon absolue, mais la beauté de ne pas se précipiter et de ne pas vouloir parce que, je sais pas, peut-être on se moque de lui parce qu'il n'a pas encore eu de relation sexuelle à 14 ans, 15 ans, qu'on peut lui donner la force et qu'il puisse affirmer ce qu'il... Bon, en faisant attention toujours pour pas se mettre trop... Il y a toujours un équilibre, justement, cet équilibre pour ne pas risquer d'être rejeté aussi par le groupe. Hein. Mais au contraire, il peut peut-être apporter quelque chose au groupe. Sans passion, là aussi, tout à l'heure, il y avait l'histoire de sans passion. C'est-à-dire que, vous avez vos idées, j'ai les miennes, ou... Ah bon, vous pensez comme ça, ben moi je me demande si ça serait pas mieux comme ça. Quelque chose où on ouvre aussi un dialogue.
Oui, je suis avec l'art du dialogue, oui.
Oui. De l'écoute, du dialogue. Et pour ça, la notion d'ouverture et de ne pas être... Alors, dans un sens, j'aime bien, moi, les gens passionnés, mais passionnés pour ce qui les intéresse et tout ça, mais pas passionnés dans le sens vouloir démontrer, vouloir convaincre, vouloir avoir raison. Oui, voilà.
Ouverture.
Oui.
Nous arrivons à la fin de ce premier entretien autour de l'éducation. Vous avez abordé un petit peu les différentes étapes de la vie, des âges, et la prochaine émission va repartir un peu de ça sur l'existence, les différents âges, les étapes, voilà, avec la notion du temps qui passe.
Oui,
voilà.
D'accord.
Donc on va se retrouver un peu plus tard pour la suite,
le
mois prochain, pour la suite de nos entretiens.
Dans les podcasts.
Voilà, dans les podcasts, et la notion de temps sera abordée, et nous pourrons reprendre autour des âges et des étapes de l'existence. Merci Swamini.
D'accord.
Merci. À la prochaine fois.
À la prochaine, avec joie.
Nous concluons donc sur cette nécessité d'écoute, de dialogue nécessaire pour permettre aux jeunes adolescents de s'insérer dans le flux de l'existence avec confiance. Nous nous retrouvons le mois prochain où il sera question du temps qui passe et comment faire en sorte de ne pas le perdre, ce précieux temps. Et pour se quitter, une chanson de Jack Johnson avec ses quelques mots d'enfant à sa maman, « Je n'ai pas envie de dormir, just can't go to sleep ».
Just can't go to sleep. Oh mama, don't you know, I just can't go to sleep. You told me go to bed hours ago, but mama, you know I just can't sleep. Can't close my eyes. Well, it's getting so late. I just can't close my eyes. I'm so afraid if I close my eyes, I just won't see what's outside. You told me go to bed hours ago, but mama, I just can't sleep.